Jours, je vais l'évoquer tout à l'heure en début de prédication, mais prenons d'abord les lectures bibliques qui vont nous conduire dans cette méditation. Il s'agit d'un texte de l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel, et c'est un récit qui se situe au moment de la révolte d'Absalom contre son père, le roi David. Donc la révolte d'Absalom pour David, et en particulier la fin de la vie d'Absalom. Fin tragique, Absalom qui va être tué par Joab. Donc 2 Samuel 18, d'abord le verset 9, 2 Samuel 18, 9. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous la ramure d'un grand chêne et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il resta entre ciel et terre pendant que le mulet qui était sous lui passa outre. Versets 14 et 15. Joab dit « Je ne vais certainement pas m'attarder avec toi. » Et il prit en main 3 épieux et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du chêne. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Et au chapitre 19 de 2 Samuel, nous lisons les 9 premiers versets. David vient d'apprendre la mort de son fils Absalom. Alors le roi, tout frémissant, monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Il disait en marchant, « mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils. » On fit ce rapport à Joab. Voici que le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. Et la victoire ce jour-là devint un deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire « le roi est affligé à cause de son fils ». Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme un peuple confus de s'être enfui dans le combat. Le roi s'était couvert le visage. Le roi criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab arriva auprès du roi, à l'intérieur, et dit, « Tu couvres aujourd'hui de honte la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, la vie de tes fils et de tes filles, la vie de tes femmes et de tes concubines. » Tu aimes ceux qui te haïssent et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur qui compte. Et je reconnais aujourd'hui que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, tu trouverais cela normal. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors point, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors, le roi se leva pour siéger à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici le roi, il siège à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui chacun dans sa tente. En ce dimanche de fête des pères, je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur la notion de paternité au travers de l'exemple d'un père dans l'Ancien Testament, et ce père, bien entendu, c'est David. La paternité n'est pas un thème toujours facile à aborder, surtout de nos jours où les choses sont de plus en plus compliquées. C'est encore plus difficile de parler de paternité que de maternité. Mais c'est un thème toujours d'actualité. À un moment où notre société se pose la question du rôle et de l'utilité du père dans la famille, a-t-il encore sa place? Dans quelques mois, le Parlement de notre pays va être saisi d'un projet de loi de la part du gouvernement pour débattre de la procréation médicalement assistée, la PMA, on entend parler dans les médias, comme le disait Pierre tout à l'heure, accessible à toutes les femmes, sans exception, ouvrant la voie à la famille monoparentale sans père identifié et à la perspective d'enfants naissant directement comme orphelins de père, que l'on est loin du modèle créationnel de Dieu pour la famille. Pourtant, malgré la faiblesse et les défaillances paternelles, qui sont nombreuses, nous affirmons en accord avec le message biblique la place importante et, je dirais, irremplaçable du père au sein de la famille, aux côtés de la mère, de la maman, pour l'identité et pour l'équilibre des enfants. Mais je ne suis pas là pour disserter sur la PMA ce matin. Et je voudrais que nous en venions simplement à notre texte biblique pour incarner ce qu'est vraiment un père, ce qu'est un cœur de père. Et David nous donne une grande leçon. Donc, en ce jour de fête des pères, j'aimerais évoquer avec vous la figure de David. Et plus je relis son histoire dans l'Ancien Testament, plus je suis impressionné par la richesse de sa personnalité, par le nombre des dons que Dieu lui avait accordés. David était à la fois un politique, il reste le modèle du roi, le grand roi d'Israël, en même temps, un homme spirituel, un homme de foi. Malgré ses défaillances, il a toujours gardé la foi en Dieu. On a l'impression, à lire certains versets des psaumes qu'il a écrits, qu'il aurait voulu être sacrificateur, lévite, pour pouvoir demeurer toute sa vie dans la maison de l'Éternel. De plus, ses dons artistiques étaient très développés. Il était à la fois musicien, poète et compositeur. Et j'ajouterai à cette liste, pour notre propos d'aujourd'hui, ses qualités de père. David a été un père très sensible, pas exempt de fautes, comme le sont tous les pères, même si tous les pères ne commettent pas les mêmes fautes que David. Pas exempt de fautes, bien entendu, mais il a démontré à plusieurs reprises combien il avait un véritable cœur de père. Et on s'en rend compte dans son histoire, particulièrement en deux occasions. Il y a celle que nous venons de lire, je vais y venir dans un instant. Mais la première, c'est quand il s'agit de l'enfant né de l'adultère de David avec Bathsheba. Ce fils anonyme, il n'a pas de nom dans la Bible, a connu une existence très brève, puisqu'il a été malade juste après sa naissance et qu'il est mort après une courte semaine de vie. On constate la sensibilité de père de David envers cet enfant, son amour pour lui. David prie ardemment pour la guérison du bébé. Il implore l'Éternel de le sauver. David jeûne, s'humilie durant toute la maladie du garçon. Il délaisse son lit confortable pour coucher par terre. Tout cela n'empêchera pas l'enfant de mourir, car Dieu n'avait pas choisi de le sauver. Et David devra faire son deuil et se relever après avoir compris que Dieu ne répondait pas à son intercession. Même si ce fils était l'enfant d'adultère, David l'a aimé et a tout fait pour qu'il vive. Il n'en a été que plus châtié et malheureux quand le garçon est mort. La deuxième occasion, et c'est celle de notre texte de ce matin, c'est lorsqu'un autre fils de David, Absalom, est lui-même mort. David démontre encore plus fort qu'il a un véritable cœur de père, et je crois que cela apparaît ne serait-ce qu'à la lecture du texte, dans la façon dont il répète les mêmes formules. Quelques mots au sujet d'Absalom, très rapide. Moi, mes souvenirs d'école du dimanche, quand on nous racontait l'histoire d'Absalom, la chose qui me reste, c'était que c'était celui qui avait la plus belle chevelure de toute la Bible. On lui coupait les cheveux régulièrement et il paraît qu'on pouvait obtenir une grosse, grosse somme d'argent avec le poids de ses cheveux, tellement sa chevelure était belle, était dense. Et c'est peut-être ça aussi qu'il a perdu quand il s'est coincé dans le chêne. Mais Absalom était le troisième fils de David, un garçon beau et fort, mais aussi turbulent et ambitieux. Il se faisait remarquer par sa stature et par sa chevelure abondante, je viens de le dire, mais quand on lit le récit, on voit qu'il se révèle dur et cruel dans son comportement. Pour venger le viol de sa sœur Tamar, il tue Amnon, le fautif, et après un temps d'exil et de bannissement loin de Jérusalem, il revient et il renverse le roi David, son père, voulant prendre sa place. David est contraint alors de s'enfuir de Jérusalem, devant son fils. Il doit quitter Jérusalem. Et Absalom va humilier profondément et publiquement son père en s'appropriant publiquement les concubines de David, en signe d'affirmation que c'est bien lui, Absalom, qui est le nouveau roi. Quelle honte infligée à son père, quelle humiliation infligée à David de la part d'Absalom. Va s'en suivre une guerre entre partisans d'Absalom et fidèles de David, les fidèles de David sous les ordres de Joas, dont il a été question dans la lecture que nous avons faite. Absalom va devoir s'enfuir sur une mule ou un mulet, et c'est dans sa fuite qu'il va rester accroché par son abondante chevelure dans les branches d'un arbre, et c'est là qu'il va perdre la vie sous les coups de Joab et de ses compagnons. Et à la nouvelle de la mort d'Absalom, la réaction de David est terrible. Terrible de désespoir. Il est accablé de douleur. Il s'isole dans la chambre haute. Il pleure et se lamente en répétant sans cesse « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, Absalom mon fils, Absalom mon fils !» Que de répétitions des mêmes paroles montrant le chagrin profond de David. Il est ravagé de douleur. Il couvre son visage en signe de deuil et il prononce ces paroles extraordinaires « Si seulement j'étais mort à ta place !» Le chagrin, le désespoir de David ne sont pas simulés, ne sont pas feints, ils ne sont pas superficiels. Ils sont signes de son amour profond pour son fils défunt. Malgré tout le mal qu'Absalom lui a fait, et ce mal, cette humiliation, cette honte qu'il lui a imposée, ce mal est vraiment très très grand, malgré le tort qu'Absalom a fait à sa famille, au peuple d'Israël, et à lui, David, personnellement, le cœur de David reste un cœur de père. Et ce cœur de père est complètement déchiré. La rivalité politique, l'affrontement des deux camps sont laissés de côté. C'est le cœur de père de David qui saigne à la mort de son fils. Il va jusqu'à dire qu'il aurait préféré qu'Absalom vive et que lui, David, meure à sa place. Son cœur de père, son amour sont plus forts que le ressentiment qu'il aurait pu légitimement nourrir contre son fils révolté. Oui, admirable David, pas seulement pour ses psaumes, pas seulement pour sa musique, pas seulement pour ses paroles et ses poèmes, mais pour son cœur de père, pour cette paternité qu'il incarne dans un amour profond pour son fils, malgré tous les déboires que ce fils lui a imposés. Je crois que l'attitude de David peut nous aider à comprendre la réaction de Dieu, notre Père Céleste, devant la révolte, la rébellion et la mort spirituelle de ces créatures, des fils et des filles de Dieu que nous sommes par création. Dieu ne se réjouit jamais de la mort du pécheur, car le pécheur reste son enfant, il reste sa créature. Sa justice n'est pas une justice implacable, inhumaine. Dieu ne châtie pas avec plaisir. Sa justice est pleine de sensibilité et d'amour. Dieu est un père qui pleure sur le sort funeste de ses créatures. Et Dieu continue à aimer indéfectiblement sa créature révoltée contre lui et qui cherche à l'ignorer, à l'humilier ou même à l'éliminer. Et quelquefois, nous avons du mal à comprendre que Dieu se laisse chasser comme cela, mais il respecte la liberté de ses enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce que souhaitait David et qu'il n'a pas pu faire envers Absalom, à savoir prendre la place de son fils Absalom et mourir à sa place, Dieu, lui, l'a fait pour ses créatures, pour nous. En Jésus-Christ, Dieu donne sa vie pour le salut de ces créatures révoltées que nous sommes tous et toutes. À peine mourrait-on pour un juste, dit Paul dans sa lettre aux Romains. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore révoltés contre lui, Christ est mort pour nous. Christ a pris notre place sur la croix. Il y a, me semble-t-il, une réaction naturelle pour qui a véritablement un cœur de père, c'est de vouloir donner sa vie à la place de ses enfants, si la nécessité se présente. Ce n'est presque jamais possible, selon la loi des hommes. C'est celui qui faute qui doit être puni. Mais Dieu, lui, a pris notre place. Dieu l'a fait. Il est véritablement notre Père, malgré la connotation négative qu'a pris ce mot aujourd'hui. Il est notre Père. Il nous a aimés à l'extrême en se donnant pour nous en Jésus-Christ. Et David est une illustration humaine limitée, imparfaite, mais ô combien parlante, parce qu'elle s'inscrit dans le vécu, dans l'humanité et dans l'histoire d'Israël. Alors puissent ces quelques mots partagés ce matin sur la nature du Dieu Père et son action de Père envers nous, faire de nous, si nous sommes dans cette situation, de meilleurs pères humains, et au-delà en tout cas pour chacun et chacune de meilleures personnes, de meilleurs hommes et de meilleures femmes, par Jésus-Christ, lui, Jésus, le Fils unique, qui nous a appris à nous adresser à Dieu de la façon suivante. Notre Père, qui es aux cieux. Amen.